1, 2, 3, 4.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce grand direct, avant-dernière édition de l'année 2017. Et pour ce soir, nous allons vous proposer trois sujets qui sont au programme de nos trois rubriques. On va commencer cette émission avec le traditionnel marché de Noël solidaire de Pôle Sud, puisqu'il arrive tout bientôt, Fabio.
Oui, sa 11e édition de ce marché pas comme les autres, organisé par Pôle Sud et la Fédévaco, la Fédération Vaudoise de Coopération, aura lieu à partir de ce jeudi, oui, vendredi et samedi. Donc, trois jours d'amitié, de folie, et voilà. On en parlera tout à l'heure avec nos trois invités.
C'est parfait, voilà, pour débuter ces deux saisons, ou presque, hein, comme on le dit. La Rose des Vents, ce soir, avec une nouvelle voix de Django. Samuel, bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons aller ensemble à la rencontre d'ateliers de théâtre pour des jeunes migrants.
Oui, c'est des ateliers qui sont proposés par une association du Lavaux qui ont lieu à Accueilly et qui servent effectivement à de jeunes migrants par et pour les migrants.
Voilà, tout ça on découvre dans La Rose des Vents dans une vingtaine de minutes. Et puis, à 7h20, nous allons parler d'art et de photos avec Cultiver Lausanne, Isaura.
Oui Fabien, ce soir on reçoit Bruno Eberly, un jeune artiste contemporain qui expose son œuvre à l'espace d'art La Placette à Lausanne.
Voilà pour Cultiver Lausanne, le marché de Noël solidaire, des ateliers de théâtre pour les jeunes migrants et le photographe Bruno Eberly. C'est le programme de cette 124e édition du Grand Direct. À écouter jusqu'à 19h sur radio.django.fm et sur le bassin Les Maniques grâce au DAB sur La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django,
vivre à Lausanne.
Ça devient une habitude dans cette période de l'année de parler du traditionnel marché de Noël solidaire, Fabio.
Et oui, et plus précisément de sa 11e édition de ce marché donc de Noël pas comme les autres qui a lieu à partir de ce jeudi, je le disais tout à l'heure. Mm-hmm. Il est organisé par Pôle Sud et la Fédévaco, la Fédération Vaudoise de Coopération, et il reçoit rien de moins que 43 associations, oui, sociales et solidaires sous le même toit. Une occasion d'acheter des objets pour faire plaisir à ses proches, tout en soutenant des actions durables d'ici et d'ailleurs. Et parmi ces associations et ONG, nous trouvons aussi des organisations de défense des droits humains, des spécialistes de la finance durable, des pionniers de l'innovation technologique et des représentants de l'agriculture de proximité.
Eh ben oui, c'est tout un programme. Et puis, nous avons le plaisir ce soir de recevoir sur Radio Django les collaboratrices et collaborateurs des trois associations présentes au marché pour discuter à tombeau ouvert, on va le dire, de ce, ouais, marché de Noël solidaire.
Oui, bonsoir Christelle François de la Bourse de Travail. Ah, elle n'a pas le micro.
Mais c'est pas très bien.
Bonsoir.
Océane Guimain de l'association Interculture.
Bonsoir.
Et enfin, Yves Christoffel du collectif Urgence Palestine.
Bonsoir.
Ah, il y a des sévices dans la salle. Ouais. On commence par toi, Yves. Je rappelle, le collectif Urgence Palestine Vaud, puisqu'il existe aussi à Genève, Neuchâtel et Valais, est né de la nécessité de soutenir activement la lutte de libération du peuple palestinien. Et dans le collectif, vous êtes très active et actif dans l'information et la publication, notamment de brochures et de bulletins d'information via votre site, mais aussi par une présence hebdomadaire au marché de Lausanne, par l'organisation de conférences et débats, notamment au retour des missions, ou encore par l'organisation des manifestations, etc. Vos actions sont tellement nombreuses qu'il n'y a qu'une solution, votre site urgencepalestine-vd.ch. Le collectif Urgence Palestine est un habitué du marché de Noël solidaire puisqu'il est présent depuis la première édition de 2007. En quoi cette participation, Yves, est importante pour le CUP ?
Dans la mesure où notre action concernant la Palestine est basée sur la solidarité avec cette population qui a été spoliée pour nous, qui est injustement brimée continuellement depuis la création de l'État d'Israël, donc c'est-à-dire depuis 1947. Voilà, c'est être présent à ce marché, c'est vraiment une action solidaire. Donc nous avons tout à fait notre place dans ce dans ce marché.
Ouais.
Est-ce que pour cette année notamment, c'est un anniversaire très particulier puisque toutes ces années qui se terminent en 7 ont été des années très marquantes pour la situation en Palestine, notamment en 1917 par la déclaration de Balfour qui déjà commençait à parler de la création de l'État israélien. 1947, qui a été la création de l'État israélien décidée par les Nations Unies, dans laquelle il devait y avoir deux États. 1967, la guerre des Six Jours, avec une colonisation de une bonne part de la Cisjordanie, qui sont toujours sous colonisation. 1987, qui est l'époque de la première intifada. Et hélas, aujourd'hui encore, 2017, avec les derniers événements. Avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Donc on se sent particulièrement motivé pour témoigner, encore continuer à dire notre indignation face à cette injustice. Et nous marquons encore, il y a une exposition de photos au marché pour montrer aussi ce qu'a été la Nakba, ce qui veut dire la catastrophe qui a été ressentie par les Palestiniens. Avec cette invasion brutale des armées sionistes qui ont chassé des gens de leur village, qui dans la foulée ont rasé ces villages pour être sûr que ces gens ne reviendront pas, ces gens qui vivaient en Palestine depuis des générations et auxquels on a privé, on les a chassés, on a empêché qu'ils puissent revenir, on les a coupés complètement de leurs racines. Voilà, toutes ces raisons font que la justification et la motivation de notre présence au marché solidaire.
Tu as déjà répondu à toutes les questions que je voulais te poser.
Oh, c'est efficace comme ça.
Pardon.
C'est très bien. Surtout, c'était extrêmement clair. Donc, un des engagements du collectif Jean Palestine est de soutenir, et tu viens de le dire, par tous les moyens, le peuple palestinien. Est-ce que, je dirais, en termes aussi financiers, le marché de Noël, il contribue à ça?
Le marché de Noël, de même que notre présence au stand, qui est à la fois une action de témoignage, mais aussi une action, nous vendons de l'artisanat, de l'huile d'olive palestinienne, des savons palestiniens, des broderies, plusieurs objets, enfin, choses qui vont revenir finalement aux populations palestiniennes pour leur permettre de continuer à vivre, de survivre malgré tout dans les conditions de l'occupation israélienne.
D'accord, donc votre stand sera au deuxième étage de Pôle Sud, le stand du collectif Urgence Palestine, mais on reviendra auprès de toi tout à l'heure, Yves. On passe à Christelle, qui représente ce soir la Bourse à Travail, qui œuvre ici à Lausanne à l'intégration de personnes migrantes et qui sont confrontées à des difficultés à se procurer un emploi. La BAT, comme on l'appelle par ici, comme son nom l'indique, met l'accent sur la formation pour amener les personnes sans emploi à un niveau de qualification concurrentiel et donc à de meilleures chances sur le marché du travail. Les formations proposées vont des cours de cuisine, dont tu t'occupes, Christelle, à des cours d'employés de maison, des cours de santé, de français, de techniques de vente, de conduite auto même, d'élaboration de CV ou encore pour de l'initiation informatique. Bref, toute une panoplie de formations suivies par beaucoup de migrants et migrantes, je le répète ici à Lausanne, dispensées par cette BAT, par cette bourse à travail engagée dans la défense de la dignité humaine des personnes migrantes. Christelle, sixième présence de la BAT au marché avec bien entendu un stand haut en couleur et orné en fait de très jolis articles confectionnés par une myriade de bénévoles qui soutiennent l'association. Mais Christelle, la BAT participe pour la deuxième année consécutive aussi sous une autre forme, la préparation des repas.
Oui, tout à fait. Ben, cette année, on a innové, on a proposé à Pôle Sud de préparer les repas pendant ces 3 jours. Donc, on a des élèves qui viennent de terminer leur formation.
Avec toi?
Oui, avec moi. Mmh. Et donc, pour l'occasion, on leur a proposé de faire un stage de formation au sein du marché de Noël et puis de préparer ces 3 repas qui vont être servis pendant le marché de Noël.
Donc, en fait, la fin des cours, c'était aujourd'hui même. C'est aujourd'hui qu'ils ont reçu.
Oui, c'était la remise des attestations aujourd'hui.
Des attestations aujourd'hui. Oui. Tout le monde a passé tout
Oui,
le monde...
parfait. Ils étaient formidables.
C'est bien. Dis-nous quelques mots sur ces cours que tu disposes.
Alors, ce sont des cours de cuisine professionnelle où on apprend les techniques d'hygiène, de sécurité, toutes les techniques de cuisson, les techniques de base de la cuisine. On va apprendre aussi le comportement en cuisine pour ne pas se mettre en danger. Toutes les règles qui régissent la cuisine au niveau normes HACCP. Ensuite, on a toute la théorie qui va avec. Évidemment, c'est une formation qui se passe sur 3 mois en raison de 2 cours par semaine. Donc, un cours le lundi qui est de la théorie, donc toute une matinée de 2 cours de théorie, oui. Et le mardi qui est le cours de pratique. Donc là, on va préparer des plats et ensuite on va pouvoir les déguster pour faire connaître justement ces produits aux migrants qui ne connaissent pas, pour dire une petite anecdote, ils ne connaissent pas ni le beurre, ni la crème. Donc, ça fait...
Vous cuisinez donc des plats européens ou carrément suisses?
Oui, justement, on cuisine des plats européens et suisses.
La fondue, ça va?
Alors, pas forcément la fondue, mais par contre, on fait, dans le cadre du programme, on a le sauté de veau zurichois, on a les rösti, on a la tarte Linz. Enfin, des produits qu'ils ne connaissent pas forcément, qu'on leur fait découvrir. Et justement, ils produisent ces mets et après, ils arrivent à les reproduire chez eux, à faire consommer leur famille ces produits-là. Et donc, ça fait effet boule de neige. Et ça fait vraiment plaisir. Après, ils nous envoient des photos. Une fois qu'ils ont produit des mets chez eux, ils m'envoient des photos de mets qu'ils ont produits et ils me montrent leur savoir-faire. En me disant, voilà ce qu'on a produit.
Le but étant qu'ils soient...
Autonomes.
Autonomes et plus facilement employables.
Oui, justement, on essaie par tous les moyens de les aider à trouver du travail.
Par avoir vu tes cours un peu de près, je peux vous dire que vous préparez depuis le pain.
Oui, voilà.
Donc le pain préparé par les apprenants et les apprenantes, l'entrée jusqu'au dessert, et c'est assez joyeux, magnifique.
Oui, mm-hmm. Oui, on prend vraiment du plaisir à faire ce cours et à partager aussi après le repas tous ensemble.
Et puis alors pour ce marché de Noël solidaire, vous allez vous occuper de faire tous les repas. C'est quoi le mot d'ordre? Vous allez faire de la cuisine européenne ou
alors le thème c'est plutôt de la cuisine végétarienne autour des produits locaux qu'on va essayer de mettre en œuvre. Et donc on a des produits qui viennent de jardins associatifs. On va pouvoir utiliser des légumes qui viennent de la région. Mmh.
Donc des produits de la région oui, qui sont produits ici de saison en plus.
De saison, oui.
Qu'est-ce qu'on a actuellement en saison?
Alors en ce moment, on a la courge, on a le navet, on a les carottes, on a le chou, on a le poireau.
Ah oui, c'est quand même riche.
On a quand même pas mal de produits de saison qui sont en ce moment faciles à trouver au marché.
Bon, on a de quoi venir se régaler pour les plats ces prochains jours, cette fin de semaine ici à Pôle Sud. Notre troisième invité, Ossane Guimin, bonsoir. Vous êtes représentante Interculture, une association à but non lucratif qui est active en Suisse et en Équateur. On vous connaît, on en a déjà parlé de vous sur Django. La filiale suisse a pour objectif de favoriser le dialogue entre les différentes cultures présentes ici. La filiale équatorienne a pour mission de venir en aide à des enfants et des adultes défavorisés à travers la mise en œuvre de projets ponctuels. Interculture Suisse se charge alors de récolter l'argent nécessaire à la mise en œuvre des actions prévues. Et puis Interculture privilégie sur place à soutenir les petits commerçants et les artisans. L'argent récolté bénéficie ainsi à un maximum de personnes dans le besoin. C'est un bon récapitulatif entre les liens suisses et équatorien.
Océane, première présence cette année au marché de Noël solidaire pour cette jeune organisation de laquelle tu es membre. Qu'est-ce qui motive une association comme la tienne à participer à cette manifestation?
Alors déjà, je dirais au niveau individuel, les membres d'Interculture apprécient beaucoup le marché de Noël solidaire. On vient chaque année en nombre pour participer à l'événement en tant que public. Et en termes associatifs, vous avez très bien résumé donc notre ancrage à la fois en Suisse et en Équateur. Et donc ça nous permet de rentrer exactement en fait dans notre double positionnement, donc récolter une partie de l'argent en Suisse sur la base de produits qu'on achète en Équateur et donc qui bénéficient justement à un maximum de personnes.
Vous tenez des stands de temps en temps ailleurs, Lausanne?
Oui, ça nous arrive dans le cadre plutôt de projets qui sont ponctuels.
D'accord. Et Interculture a mené des actions plus particulièrement en Équateur. Sur votre stand, on trouve l'artisanat, donc, qui vient de ce pays. Comment il est récolté cet artisanat?
Alors l'artisanat qu'on aura sur notre stand provient de deux endroits différents. Une grande partie de l'artisanat, qui est un artisanat vraiment de qualité, vient d'Otavalo, qui est donc la ville commerçante qui vit de cet artisanat-là en Équateur. Et une deuxième partie de notre stock a été achetée à Pedernales, qui est justement la ville qui a été la plus touchée par le séisme, le tremblement de terre qui a eu lieu en avril 2016. Et là, on a acheté une partie de l'artisanat qui est peut-être moins attractive visuellement, mais qui nous a vraiment permis de soutenir économiquement les gens qui en avaient vraiment besoin. Et on a fait des dons pour leur permettre de récolter assez de matériel pour pouvoir continuer à survivre, parce qu'ils n'avaient plus de revenus possibles.
Le tremblement de terre, tu nous rappelles à quelle année ?
2016, avril.
2016, et c'est une des actions qu'Interculture mène,
oui,
en Équateur.
Oui, tout à fait.
Quels sont les objectifs d'Interculture pour ce marché de Noël solidaire, Océane ?
Alors, comme vous l'avez dit, on fait en Équateur des projets ponctuels. On est une petite association, donc on ne se lance généralement pas dans des projets d'énorme envergure. Par contre, on est assez présent au niveau des familles ou des enfants qui sont dans le besoin ponctuellement. Donc notre travail, c'est vraiment d'envoyer des équipes sur place pour repérer des familles, des enfants qui sont dans le besoin, évaluer les coûts, et ensuite, à ce moment-là, trouver des solutions qu'on puisse financer ici en Suisse et qui soient justement pérennes pour eux. Donc le but, ce n'est pas de continuer à envoyer de l'argent à une famille tous les mois, mais plutôt de trouver une solution pour qu'ils retrouvent une source de revenus eux-mêmes. Donc par exemple, on a acheté des animaux pour une famille qui n'avait plus de moyens de survie. Donc avec des poules, ils avaient moyen d'avoir des œufs pour eux-mêmes, puis de pouvoir vendre le reste de leur production. Donc ils avaient une rentrée d'argent qui leur était possible par ce biais.
Vous vous y rendez régulièrement en Équateur ?
Oui, différentes personnes. Donc généralement, on fait un tournus dans les membres d'Interculture Suisse qui se rendent sur place et qui rejoignent la filiale équatorienne pour toujours un petit peu travailler en collaboration avec les personnes qui vivent sur place.
Yves, la même question pour toi. Est-ce que les membres du collectif Urgence Palestine se déplacent souvent dans ces contrées ?
Il y a des missions régulières, des gens qui vont participer à la récolte des olives, des gens qui vont témoigner au checkpoint pour être présents, pour montrer les humiliations qui sont subies. Donc, non, bien sûr, il y a des voyages réguliers. De toute façon, dans les membres, il y a aussi des gens qui sont d'origine palestinienne, qui vivent maintenant en Suisse. Et bien entendu, on a des liens très, très, très étroits et très fréquents avec le terrain.
On est peut-être une question à tous les trois, Christelle, Yves et Océane. On est en période de Noël, bon, ça vous n'aura pas échappé, je pense, avec donc une surconsommation assez effrénée. Cette frénésie de consommation, bon, est nocive, on le dit toujours, est nocive à plusieurs niveaux. Or, le marché de Noël de Pôle Sud et de la Fédévaco, bien qu'il soit un marché pas comme les autres, comme on le définit, reste un lieu de consommation. Qu'en pensez-vous ? Qu'en penses-tu, Christelle ?
Moi, je pense que si on choisit des produits pour ma partie restauration, on va prendre des produits locaux, on va favoriser la production locale pour justement que cette production soit pérenne et qu'on puisse aider les petits producteurs dans ce cas-là. Donc, on va essayer de favoriser plutôt les petits producteurs plutôt que des gros, ou acheter plutôt local plutôt qu'industriel. Donc moi je dis toujours, il faut favoriser la qualité plutôt que la quantité.
Donc il n'y aura pas de surconsommation,
voilà,
dans les assiettes au marché de Noël.
Non, non.
Mais moi j'aurai un autre pain quand même.
Mais bien sûr. Mais les proportions seront respectées.
Yves, même question à toi.
Pour nous, les produits que nous vendons sont des produits dont on connaît très bien les producteurs, que ce soit pour l'huile, les savons, les broderies, tous ces produits qui viennent de Palestine. Donc ce n'est pas de la consommation, c'est des circuits courts et c'est un geste de solidarité pour moi qui est bien plus dominant par rapport à la consommation, le fait d'acheter des produits au stand du comité urgence Palestine.
Et pour vous, Océane ?
Je rejoins tout à fait Yves dans la provenance des produits. Tout à fait, c'est exactement ce qu'on fait ici. Après, l'argent, il est indispensable dans le monde dans lequel on vit. Donc, pour pouvoir aider aussi dans certaines régions, on en a besoin. Donc, voilà, venez au marché de Noël solidaire, vous ferez des super cadeaux de Noël.
Et oui, des cadeaux
utiles.
Originaux et utiles. C'est parfait, comme ça, c'est le mot d'ordre de ce marché de Noël solidaire. Un marché de Noël, pas comme les autres, on le rappelait tout à l'heure. Merci beaucoup Christelle François de la Bourse à Travail. Merci beaucoup d'être venue ce soir
nous
parler
de
restauration. Merci également à Océane Guimain de l'association Interculture. Merci beaucoup. Et merci également à Yves Christoffel du collectif Urgence Palestine. Merci à vous trois pour être venus nous parler de vos associations et de vos activités respectives. Plein succès pour cette édition 2017, cette 11e.
Merci beaucoup.
Et Fabio, un dernier mot pour conclure.
Oui, Fabien, pour dire que cette 11e édition du marché solidaire se tiendra à Pôle Sud le jeudi 14 et vendredi 15 décembre de 17h à 22h et le samedi de 11h à 20h. Le public est donc convié pour acheter des cadeaux solidaires, équitables, fruits du travail d'artisanat d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, on l'entend aussi de Palestine, de Moyen-Orient et de certains pays de l'Est. Certains 100% Swiss made, d'autres immatériels, lient l'originalité à l'utilité. Par exemple, un joli certificat symbolisant par exemple la ruche offerte à une femme au Cameroun ou des parts sociales équitables finançant le développement d'activités économiques en Équateur. De quoi combler toutes les envies et toutes les bourses. On peut même y souscrire un abonnement au quotidien Le Courrier.
Ah oui.
Ouais, Le Courrier, c'est un journal qu'on aime bien, puis qu'on invite depuis le début. Enfin, qui s'est invité depuis le début.
Oui.
Donc, un abonnement au quotidien pour Le Courrier, pour celles et ceux qu'on aime et dont on veut entretenir une certaine hygiène mentale.
Ben oui, c'est bien. Ça, c'est, voilà. Pense à eux aussi.
Voilà, exactement. Et encore un mot, et pas des moindres, cela se passe dans les locaux chauffés.
C'est bien.
Ouais, il y aura le bar.
Très bien.
Restaurant de la Mère Noël. C'est pas un gag. Hein. C'est une collègue de Pôle Sud qui s'appelle Noël. Donc, c'est le bar de la Mère Noël. Et qui sera ouvert les 3 soirs jusqu'à minuit parce qu'il n'y a pas que les emplettes. Il faudra qu'on refasse aussi le monde parce qu'il en a bien besoin.
Et oui, il aura bien besoin et il y aura du monde pour ça. Il y aura notamment toi, Fabio, pour partager comme chaque année ce marché de Noël solidaire. Merci beaucoup. Le marché de Noël, on l'a dit, ça commence ce jeudi à partir de 17h ici à Pôle Sud, avenue Jean-Jacques Mercier, numéro 3, à côté du Flon. C'est à Lausanne, c'est au cœur de la ville. On vous invite toutes et tous à venir en profiter. Voilà, je crois que c'est tout. Tout est dit. On vous a mis tous les liens sur notre site, sur la page de l'émission www.django.fm. Merci Fabio pour le sujet.
Mais un plaisir.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Oh. Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day.
Un petit peu de douceur de Noël avec cette chanson qui est signée Queen, Thanks God It's Christmas. Pour vous sur Radio Django, 18h27, on passe à cultiver le... Ah, la rose des vents, pardon.
Radio Django, la rose des vents.
Bonsoir Samuel.
Bonsoir Fabien.
Ce soir dans la rubrique La Rose des Vents, tu nous proposes de découvrir un projet théâtral qui s'adresse à de jeunes migrants.
Oui Fabien, ce projet est conduit par l'ABRAL, l'association des bénévoles auprès des requérants d'asile de la région Lavaux. Il se tient au caveau L'Oxymore, une salle de spectacle de QI, et il propose à de jeunes migrants de faire du théâtre. Alors l'idée est de leur offrir un espace où nouer des liens de confiance, où renforcer leur identité et leur estime qui sont souvent mises à mal par la migration. Et il s'agit de leur permettre d'expérimenter le pouvoir d'agir et de prendre une place à travers le théâtre. Donc une première rencontre a eu lieu fin novembre, mais l'atelier hebdomadaire commencera au mois de janvier prochain.
Et pour en parler ce soir, nous recevons Anne Colombini. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de français auprès des étrangers et vous êtes impliqué personnellement dans l'accompagnement de migrants. Vous faites partie des deux initiatrices de ce projet aux côtés de la metteuse en scène Maria Alexandrovskaya qui intervient notamment à l'école des teintureries de Lausanne. Qu'est-ce qui vous a poussé à proposer à des migrants de faire du théâtre ?
Tout d'abord, c'était la rencontre un peu inopinée de Marina dans le train qui m'a dit « Moi, j'en ai un peu assez de faire du théâtre de fiction, de faire apprendre par cœur des textes. J'ai envie de travailler avec des migrants. » Puis je lui ai dit « Ah, bah, c'est incroyable. Moi aussi, je travaille avec des migrants, mais plutôt dans le contexte de l'enseignement. » Elle a eu envie de rencontrer d'autres migrants à mes côtés. Et c'est vrai que moi, je suis assez convaincue, dans le cadre de l'enseignement, de la force de l'expression théâtrale. Et je vois à quel point même des personnes qui sont en difficulté par rapport à la langue française, dès qu'on leur donne l'occasion de faire des jeux, d'expression gestuelle, d'expression corporelle, je suis impressionnée de voir à quel point ils prennent leur place, ils prennent de l'assurance et à quel point ils prennent plaisir à pratiquer la langue. Et je suis assez convaincue que de pouvoir leur donner la parole, c'est aussi une manière pour eux de prendre place dans notre société et peut-être aussi, de dépasser les douleurs et les difficultés qu'ils ont traversées jusque-là. Ça, c'est peut-être un peu ambitieux, mais pourquoi pas.
Alors justement, vous décrivez que le théâtre peut être un chemin de réconciliation. Avec quoi souhaitez-vous les réconcilier, ces jeunes migrants ?
Peut-être parfois avec leur histoire, peut-être avec les souvenirs qu'ils ont laissés chez eux. L'occasion de dire, surtout de parler des belles choses qu'ils ont vécues, parce que parfois, par exemple, chez les psychologues, les jeunes migrants ou les migrants tout court ont tendance à mettre l'accent sur ce qui est douloureux, sur ce qui a été difficile. Et moi, je suis assez convaincue qu'ils sont aussi porteurs de belles choses et que c'est important de pouvoir mettre en valeur ces choses, ces ressources, leurs ressources. Et je pense que le théâtre peut être aussi une occasion de mettre en valeur ces ressources, les souvenirs qui les ont fortifiés aussi.
Alors, vous parlez d'ateliers théâtre documentaire. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est qu'au fond, la matière première du scénario, ce sera ce que les gens pourront apporter d'eux-mêmes, que ce soit des danses, que ce soit des textes, que ce soit des récits personnels. Au fond, on ne va pas leur apporter de textes tout près. Ou si on apporte des textes, ce seront des textes que nous aurons travaillés à partir de dialogues qu'on a eus avec eux, à partir de moments passés avec eux. Mais au fond... La matière première, ce sont leurs vies. Ce n'est pas un texte extérieur à eux, ce n'est pas un texte à apprendre. C'est, Voilà, c'est leur vie. Les bribes qu'ils voudront bien nous ont partagées, il est bien clair qu'on ne va pas leur sortir les vers du nez. Et l'essentiel aussi, ce sera le vivre ensemble, au fond, de voir ce qui émerge de ce vivre ensemble. Au fond, il y a beaucoup d'inconnus. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on reste ouvert à ce qui va se passer.
Et puis alors, concrètement, expliquez-nous comment ça se passe quand les gens ils arrivent avec leur vécu, leurs histoires, leurs idées, pour les amener déjà sur papier peut-être, et en tout cas après en français. Comment est le cheminement ?
Alors, au fond, moi, par le contact personnel que j'ai avec certains, de temps en temps, je note un peu des bribes de dialogue, des rencontres fortes qu'on a eues. Et puis, on essaie de leur donner un petit peu forme. Et puis, sur le moment, on verra, soit ce sera eux-mêmes qui diront certaines choses dans la mesure de leurs moyens, ou bien alors ce sera... le texte sera pris en charge par des professionnels. Parce que l'idée, c'est quand même que ces ateliers aboutissent à une représentation. Puis si on veut que ça tienne la route, il y aura peut-être des moments qui seront pris en charge par les migrants eux-mêmes, mais d'autres moments qui seront pris en charge par des acteurs professionnels pour que ça tienne la route. Quoi.
D'accord. Vous avez une première rencontre à Cuy le mois dernier, hein, c'est bien ça ?
Oui.
C'était fin novembre. Quel est le profil des migrants qui ont participé à cet atelier ?
Alors, très variable, des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui travaillent ou des gens qui sont encore en apprentissage du français. Du point de vue des origines, il y avait des Afghans, des Érythréens, Érythréennes, une Camerounaise, une Angolaise. qu'est-ce qu'il y avait encore ? Un Iranien. Et c'était tous des gens, au fond, qui avaient répondu à l'appel en disant « Oui, on a envie de s'exprimer, on a envie de vivre un moment avec vous. » Et puis, ils se sont un peu lancés à l'eau sans trop savoir ce qui les attendait. Mais ce qui est sûr, c'est que manifestement, ils ont eu beaucoup de plaisir. C'était très, très joyeux comme rencontre.
Donc, c'est une première rencontre qui s'est plutôt bien passée et qui leur a donné envie de continuer le programme.
Alors, apparemment, oui. En tout cas, ils avaient l'air très heureux. C'était très festif. On avait commencé par leur offrir à manger. On était tous autour de table. On a bu, mangé. Puis, on a marqué un peu solennellement le début de la démarche. Puis ensuite, on a fait essentiellement des exercices de détente. Peu de mots. Peu de mots, beaucoup de gestes, et beaucoup de danse et avec de la musique. Et c'est vrai qu'ils avaient l'air plutôt contents.
On a avec nous également une des participantes à cette première rencontre, Cansessao Joachim. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec le micro, ce sera mieux. Voilà, avec le micro ouvert. Bonsoir. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez vécu ? Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette première rencontre du mois de novembre ?
Cette rencontre, c'était très bien, très bon. On avait des chances de connaître des personnes différentes, de nationalités différentes. On avait dansé, on avait chanté, on avait du temps pour exprimer aussi notre sentiment quand même. Et c'était beaucoup. Et je suis très contente de faire partie de cette équipe.
Donc vous avez envie de continuer l'atelier, de participer de manière régulière ?
Bien sûr. Mmh.
Comment est-ce que vous l'avez connu, l'atelier ?
Je connais à cause de Madame Manne. C'est eux qui m'ont expliqué comment ça se passe. Et je dis, je suis envie de participer.
Et puis, pour ce qui vous concerne, vous avez une histoire à raconter. Vous avez apporté votre première pierre.
Pas encore. Je participais de recommence.
À l'instant, on ne les a pas trop interrogés. On ne voulait pas être comme ça, s'immiscer tout de suite dans la vie privée.
Ouais. Justement, au niveau du processus de création, est-ce que vous avez déjà imaginé la manière dont le spectacle, puisque vous allez créer un spectacle, va s'agencer ? Est-ce que ces différentes pierres, qui seraient ces différents récits qui vont finir par former un récit ? Est-ce que vous allez choisir une histoire que vous allez développer ?
Alors, donc, l'idée qu'on a pour l'instant et qui peut peut-être encore évoluer, c'est qu'on a au fond la charpente déjà d'un mini-scénario, mais qui se base sur des moments forts que nous avons vécus, et Marina et moi, avec une jeune fille qui nous a un peu raconté son histoire déjà, donc avant qu'on se mette en route avec les autres. Donc, on a une charpente extrêmement rudimentaire. Et à partir de cette charpente-là, on pense au fait de ce squelette, on pense lui apporter un peu de la chair, un peu transversalement, à partir de ce qui sera vécu dans les ateliers et d'autres récits qui seront amenés par les participants. Mais au fond, au départ, on a un squelette, mais il est assez maigre pour laisser tout loisir au fond aux participants d'y amener aussi leur brique ou leur part.
Donc ça, c'est des briques qui seraient sous forme de texte, mais aussi sous forme de musique, de danse. Oui. Donc vous dites chacun vient avec ses compétences et les met au service du projet.
Voilà.
Et la part des comédiens professionnels, vous aviez évoqué qui participeront aussi à la représentation.
Oui.
Vous savez déjà comment les choses vont s'agencer?
C'est Marina qui est vraiment la maîtresse du projet artistique, mais je sais qu'elle a déjà fourni. Moi, j'ai écrit un bout de texte à partir d'une rencontre personnelle que j'ai faite avec une migrante qui m'a beaucoup touchée. Et je sais que Marina a transmis déjà ce texte à l'une des comédiennes professionnelles qu'elle connaît et qu'elle est en train de le travailler pour qu'il puisse être mis en scène.
Donc, parmi les auditeurs ce soir, peut-être que certains migrants seraient intéressés à participer au projet. Est-ce que c'est encore possible?
Oui, alors c'est encore possible. Donc, la prochaine rencontre a lieu le 21 décembre au Caveau Oxymore, à Cuy. Et puis, les ateliers hebdomadaires qui auront lieu à partir du mois de janvier se dérouleront en fait dans une autre salle, dans la salle des sociétés à Grandvaux. Pour ça, parce qu'on a cherché une salle dont la location soit un peu plus modérée.
Donc vous avez une 10-15 participants, comment?
Alors la dernière fois, il y avait une quinzaine de participants, et puis moi je pense qu'il peut y en avoir plus. Et puis bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des gens qui sont quand même assez labiles, et qu'on n'est pas toujours sûr que les gens soient réguliers, et que peut-être ça va nous prendre un certain temps jusqu'à ce qu'on puisse constituer une équipe fidèle. Qui arrivera jusqu'au bout du projet. Donc on n'a pas trop peur d'avoir trop de monde au début parce qu'on sait qu'on risque d'avoir quelques défections.
Et pour ces personnes, à qui doivent-elles s'adresser pour participer?
Alors elles peuvent s'adresser soit à Marina, soit à moi, mais je n'ai pas le numéro de téléphone de Marina en tête. Mais
vous avez peut-être un site internet ou une page internet où on peut vous trouver, avoir les informations du projet?
Alors, il faudrait l'adresse. Il y a l'adresse mail de Marina Alexandrov. C'est douxalexandrov@bluewin.ch. Voilà.
On mettra tout ça en lien sur notre page directement. Ouais. Comme ça, on retrouve tous les liens directement. Avec un petit clic, tout est clair, tout est dit. On vous souhaite plein succès, en tout cas pour la suite. On rappelle que la prochaine rencontre avec les participants aura lieu le 21 décembre à l'Oxymore de Cuy.
À 17h30,
voilà. Et puis, dès janvier, l'atelier prendra un rythme hebdomadaire et il est donc encore possible de s'y joindre, comme on vient de le dire tout à l'heure. Vous avez un nombre d'idées du nombre de personnes maximum?
Je dirais une vingtaine.
Idéalement une vingtaine, on vous souhaite une vingtaine. Merci beaucoup Anne Colombini d'être venue nous parler de votre projet théâtral.
Merci à vous.
Une très belle soirée, on espère en tout cas une belle rencontre pour la suite et des belles rencontres avec des belles histoires à découvrir à partir de l'année prochaine. Un sujet préparé ce soir et proposé par Samuel, merci beaucoup. Un sujet qui est à réécouter sur notre site www.django.fm.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is going to spy
to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to
Radio Django, culture.
Et dans ce grand direct, on passe à Cultiver Lausanne avec toi, Isaora. Bonsoir.
Bonsoir, Fabien.
Ce soir, on accueille un artiste que nous recevions déjà la semaine dernière, puisqu'il est exposé en ce moment même à La Placette, à Lausanne, un espace d'art contemporain. Il s'agit de Bruno Eberli. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Alors, pour vous tirer un tout petit peu le profil, hein, comme on pourrait le dire, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, c'est un mot bien choisi, hein, parce que vous êtes photographe. Vous avez fait un bachelor à l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne, en photographie, et vous avez enchaîné avec un master en art visuel de la Haute École des Arts et Design de Genève, la HED. Vous avez dernièrement reçu le prix coup de cœur de la Fondation AED pour votre travail, et vous avez été sélectionné par l'Office cantonal de la culture pour une résidence à la Cité des Arts de Paris. Alors expliquez-nous, Bruno Eberli, comment est-ce qu'on passe d'un bachelor en photographie à un master en art visuel ?
Quand j'ai fini mon bachelor en photographie, j'étais censé donc être photographe avec une pratique de photographe. Et j'ai essayé pendant quelques mois de faire évoluer cette pratique de photographe, mais je ne trouvais pas vraiment dans quelle direction aller, parce que souvent la photographie, on sait, soit on a une affinité pour la mode, alors on va faire de la photographie de mode, ou pour du produit, ou pour du reportage. Enfin, c'est très partagé comme ça, c'est des directions assez précises. Et même si c'était la direction de celle d'un artiste, je ne m'y retrouvais pas du tout avec cette pratique-là. Du coup, je me suis dit qu'il me fallait encore un complément, on va dire, d'études, pour essayer de développer ça, et puis voir un peu où ça allait me mener.
Et ça vous a mené apparemment à la, vous dites, la marchandisation d'objets et de matériaux ayant été utilisés sur des tournages de films hollywoodiens ou ayant participé à leur élaboration. C'est-à-dire, vous faites quoi exactement ?
Éclairez-nous un petit peu.
Voilà.
C'est assez simple. Disons que quand on est photographe, on est habitué à produire une image à partir d'un objet. C'est toujours quelque chose qui est unidirectionnel. Et en fait, j'ai découvert que ce rapport pouvait être inversé et qu'on pouvait en fait passer d'une image à un objet. C'est là que je me suis intéressé à ce phénomène qui est celui de la marchandisation, comme vous dites, cette économie qui cherche à vendre des objets qui ont été visibles dans des films, dans des séries, dans des contenus audiovisuels.
Donc, quel est votre lien avec les images, finalement ?
Disons que quand j'ai fait ces études de photographie, c'est une question que je me suis posée souvent, d'où venait ce lien à l'image. Je m'en suis rendu compte seulement pendant mon master que ce lien n'était pas forcément connecté à des références artistiques. Donc c'était pas un lien à l'art directement, mais plutôt, on va dire, à la culture populaire, au cinéma, au divertissement. Et vivant dans un pays où, on va dire, la production de divertissement est assez pauvre, j'ai été principalement nourri de contenu américain. Et donc j'ai choisi d'en faire une pratique, en fait, de parler de ça.
La photographie, pour vous, c'est quelque chose qui vous a intéressé depuis tout petit ?
Ma grand-mère était photographe, on va dire amateur. Mais donc, d'une certaine manière, j'ai un peu grandi dans un laboratoire, dans un studio, dans une chambre noire. Tout ça, c'était pas inconnu pour moi quand j'ai commencé mes études. Et mes parents sont très intéressés par la culture, mais on va dire que c'était pas forcément, je pense, lié à ça de commencer une école d'art.
Et puis alors, donc, ça vous a emmené à faire un master en art visuel. Alors, vous nous le disiez en préparant cette émission qu'un master est beaucoup plus ouvert, surtout quand on choisit l'art contemporain. Expliquez-nous un petit peu le parcours ou les différents choix.
Bah, disons que j'ai fait ce bachelor en photographie qui est assumé comme étant un bachelor en photographie dans un département qui est celui de la communication visuelle. Donc c'est très précis. Quand on finit, on a une formation de photographe, qu'elle soit celle d'auteur ou de publicité ou de projet mandaté. Et du coup, même dans le domaine artistique, c'est quelque chose qui est très, qui est vraiment partagé. Il n'est pas tout le temps, la photographie n'est pas tout le temps présente dans l'art contemporain. Elle a un circuit assez précis même. Et ce circuit ne me plaisait pas forcément, ne correspondait pas vraiment à ce que je faisais. Je me suis dit qu'un master était la meilleure occasion de me frotter à un autre milieu. Donc voilà, c'était un peu repartir de zéro parce que c'est quand même assez particulier. La manière dont on envisage l'espace, des choses comme ça. Donc c'était un peu un nouveau départ, on va dire.
Et donc vous êtes, si je comprends bien, un touche-à-tout, vous faites de tout ? Ou il y a des choses que vous ne faites pas dans l'art ?
Il y a des choses que je ne fais pas encore, mais c'est vrai que j'ai une pratique qu'on appelle multimédia. Donc, je ne suis pas peintre, je ne suis plus photographe. Disons que je parle de la photographie ou du moins de l'image, mais pour parler de ça, j'utilise différents médiums, différentes techniques, que ce soit du film, de la photographie, de l'installation, de la sculpture. Ça peut vraiment être à peu près tout.
Alors, comment est-ce qu'on se spécialise dans tous ces domaines différents ?
Disons qu'on a une pratique qui ne va pas forcément nous rendre spécialistes d'une technique ou d'une autre. Ça, c'est quelque chose qui est pas forcément, on va dire, obligatoire dans l'art. On n'excelle pas forcément parce qu'on peint bien ou parce qu'on prend bien des photos. Du moins, moi, je ne pense pas. Disons que c'est plus une construction de discours et de concepts qu'on cherche à illustrer à l'aide de différentes techniques.
Et vous vous définissez, donc j'ai pu lire sur votre site, que vous vous définissez comme un artiste proche du métier d'un archéologue.
Bah, c'est de nouveau ce lien à l'objet en fait, qui revient et qui fait que des fois, oui, j'ai une pratique qui ressemble beaucoup à celle d'un archéologue, dans le sens que j'ai des images et puis je vais à la recherche d'objets, de fragments, qui sont toujours, on va dire, des espèces de vestiges qu'on trouve principalement sur Internet et voilà, qui me servent dans mon travail comme une espèce de source d'inspiration, c'est-à-dire que j'achète ces objets, j'en fais l'acquisition vraiment matérielle, je dépense de l'argent pour ça. Et après, en les ayant dans mon atelier, ben, j'en produis d'autres pièces. Et du coup, c'est ce lien à l'objet, on va dire, qui montre plutôt ce qui manque ou ce qui a disparu que l'inverse, qui me fait penser à de l'archéologie quand j'en parle.
Et pour revenir à l'exposition numéro 158 qui a lieu actuellement à la Placette, on en a parlé la semaine passée, vous avez monté une sculpture. Comment vous est venue l'idée ?
La vitrine, en fait, puisque vu qu'elle nous empêche de tourner autour de la sculpture et que le fond de la vitrine est caché, ça offre qu'un seul point de vue de la sculpture et d'une certaine manière, pour moi, ça redevient de la photographie. Donc voilà, c'était une manière de jouer avec cette vitrine comme une espèce de cadre, une espèce de vitre de cadre où l'image serait celle d'un objet mais qui voilà, peut pas vraiment tourner autour.
Faites-nous vivre, Bruno Eberlin, une de vos expositions. Comment ça se passe pour mélanger ces sculptures, ces photographies, ces mises en scène ? Comment on le vit ? Expliquez-nous.
Si on reprend l'exemple de l'exposition de la Placette, voilà, on est invité, on nous propose une date, en l'occurrence ici un mois, suffisamment à l'avance pour pouvoir travailler une certaine durée. Et voilà, pour rien cacher, il n'y a pas de budget, donc il faut aussi prendre ça en compte tout le long. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas d'argent, il va falloir aussi faire quelque chose qui nous plaît, qui plaît aux autres avec peu. C'est aussi un challenge. Et puis voilà, ensuite, à travers notre pratique, on cherche voilà, une direction intéressante, aussi une manière d'envisager la vitrine, puis c'est assez particulier, c'est pas ce qu'on appelle un white cube, voilà, une salle blanche où on peut faire vraiment ce qu'on veut, et puis on sait que les gens qui rentreront dans l'espace feront l'acte de rentrer pour y voir de l'art. Là, on touche vraiment un peu tous ceux qui passent devant, donc c'est aussi une autre manière de travailler. On peut pas montrer ce qu'on veut, on peut pas... Il faut que ce soit quand même beau pour attirer l'attention, il faut que ce soit intéressant pour ceux qui sont sensibles à l'art et qui cherchent à comprendre. Et puis voilà, que ce soit intéressant pour nous surtout.
Est-ce que vous trouvez plus intéressant d'exposer seul ou avec d'autres artistes? Parce que je vois que de 2012 à 2016, vous avez exposé, donc vous avez fait des expositions collectives. Ensuite, vous vous êtes retrouvé tout seul. Est-ce que c'était parce que vous préférez ou c'était un hasard?
Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est pas souvent le choix de l'artiste, c'est plutôt le choix de ceux qui ont les espaces en fonction de leur programme. C'est-à-dire qu'on, à moins d'être artiste et curateur, on est invité avant tout. Et puis, ben, voilà, une fois, on est invité tout seul. Et puis d'autres fois, ça serait une exposition collective avec d'autres gens. Et puis là, on n'a pas vraiment d'emprise sur ce qui est, on va dire, la réunification des pièces, le rassemblement. Ça, c'est le travail du curateur.
Comment est-ce que vous voyez votre futur, Bruno Eberli? Au niveau artistique, bien sûr.
À Hollywood.
J'ai appris il n'y a pas longtemps que je faisais partie de la slash generation. C'est-à-dire qu'on est une génération, on n'a plus envie de faire qu'une seule chose à la fois. On a plusieurs casquettes, on fait plusieurs choses en même temps pour gagner notre vie. Et même si je pouvais gagner ma vie assez rapidement de mon art, je ne pense pas que ça m'intéresserait dans la mesure où j'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps. Donc voilà, j'essaye de trouver différentes choses à faire qui sont plus ou moins liés à l'art, mais qui sont suffisamment diversifiés pour pas que je m'ennuie.
Et puis, plus concrètement, dans votre actualité, vous êtes exposé encore jusqu'au 1er janvier à la Placette, à Lausanne. Vous avez d'autres lieux d'exposition qui sont prévus pour l'année prochaine?
Non, pour l'année prochaine, je vais me concentrer sur un livre qu'on a sorti avec une graphiste qui s'appelle Pauline Piguet, un livre qui s'appelle « Dos Imperial », qui a été édité aux éditions Acme, une maison d'édition lausannoise, jeune et enthousiaste. Et là, on est en pleine promotion, donc on va certainement faire un vernissage au Centre culturel suisse de Paris en début d'année. Et puis, je dois aussi produire ce que j'ai promis de produire pour le prix que j'ai reçu à la fin de mon master. Je dois produire une pièce.
Mais oui, profitons encore juste en deux mots, ce prix, qu'est-ce que ça vous offre?
J'ai reçu une enveloppe d'un montant de 3000 francs. Et une invitation à produire une édition de pièces limitées pour les mécènes de la Fondation. Donc quelque chose privé, mais quand même conséquent.
Et moi, j'ai une dernière question par rapport à cette résidence à la Cité des Arts de Paris que vous avez gagnée. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? À part visiter Paris, vous avez...
Non, en fait, c'est dans le futur. Ce sera en 2019.
Ah, c'est dans le futur. OK. Vous savez déjà ce que vous allez y faire?
Oui, parce que l'inscription, on doit présenter un projet à l'avance. Voilà, on est choisi en fait sur un dossier, sur un projet qu'on aimerait faire à Paris. Donc je sais à peu près tout ce que j'ai envie ou je vais devoir faire.
C'est top secret.
Pour honorer mon... Oui.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là peut-être, on le souhaite en tout cas.
Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup Bruno Eberli d'être passé par les studios de Radio Django ce mardi soir.
Merci à vous.
Plein succès pour la suite. Et puis, on rappelle peut-être votre site internet où on peut voir vos œuvres et vous découvrir, www.brunoeber.li. C'est une spécialité, www.brunoeber.li.
C'est votre... Très bien, Fabien.
C'est ça, c'est tout est dit. Merci beaucoup, Isaura, pour la préparation de ce sujet.
Merci.
Une belle soirée. Et également à vous, une belle soirée. Une bonne suite, Bruno Eberli. Merci
beaucoup.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could.
Le Grand Direct s'est terminé pour ce mardi. Nous vous avons parlé ce soir du marché de Noël solidaire qui se déroule ici à Pôle Sud de jeudi à samedi. Nous vous avons parlé également des ateliers de théâtre pour les jeunes migrants et du photographe Bruno Eberli. Tous ces sujets sont à retrouver et à réécouter sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les beaux moments de vivre à Lausanne que nous avons vécu ces derniers jours, mois, années. En tout cas, tout ça, c'est un programme que nous a prévu Fabio. En tout cas, il plie la tête, il va exécuter. En tout cas, c'est ce qu'il nous a proposé. Voilà, il se réjouit beaucoup. Bref, vivre à Lausanne, un petit retour en arrière, ce sera la semaine prochaine. Et puis, nous recevrons comme chaque mois la rédaction de Voix d'Exil. Et puis, nous profiterons d'une sélection de morceaux de troc. Tout cela pour arriver gentiment à Noël. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau Grand Direct à écouter sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique. Et puis bien sûr, le programme complet, c'est sur notre site et sur notre Facebook Radio Django. Je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de vos programmes respectifs. Il est précisément 19h.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.